9h-11h, Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1 si vous nous rejoignez seulement pour cette deuxième heure d'émission. Parents, grands-parents en particulier, ce sujet va vous passionner. Je suis ravie de vous entraîner avec Julie dans le monde de la crèche, qui est un lieu à part, à l'abri des agressions de la vie a priori, mais qui apprend la vie justement. Que se passe-t-il en crèche avec des petits qui peuvent être accueillis dès leurs 2 mois? Comment se créent les interactions? À quel moment entre les petits pensionnaires? Quand apprennent-ils à apprendre, à donner, à partager avec les pédagogies adaptées aux enfants dans ces conditions? C'est un tour de la question qu'on vous propose, qui attend vos témoignages évidemment pour mieux comprendre, Julie.
Au 39-21 et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et donc vous êtes parents, grands-parents, oncles, tantes, vous êtes déjà allé chercher votre petit bout de chou à la crèche. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce lieu, dans cette collectivité? On aimerait savoir dans le détail quand même comment se comporte notre enfant en collectivité, mettre des petites caméras, être des petites souris. Ce que vous avez fait, bonjour Wilfried Ligné.
Bonjour.
En qualité de chercheur au CNRS, sociologue, vous avez beaucoup travaillé sur l'enfance et désormais sur la petite enfance, car vous avez enquêté auprès d'une trentaine d'enfants. 2 à 3 ans, en crèche, vous y avez passé 1 an, je crois, à peu près.
Exactement, oui.
Un lieu d'observation qui restera anonyme, mais vous avez choisi évidemment une crèche, on va dire, représentative.
Oui, surtout une crèche où il y avait des enfants différents, très différents, en fait, oui. En termes d'origine sociale, de vie familiale, de milieu, en fait. Et puis aussi des garçons et des filles, voilà. C'est pas une crèche représentative proprement dite, c'est pas forcément comme ça qu'on travaille. Ce qu'on
D'accord.
veut surtout, c'est avoir des écarts suffisamment importants pour se dire, pour qualifier cette expérience de la crèche. Moi, ce qui m'intéresse, c'était surtout les enfants.
C'est ça.
Donc se dire, bon, bah voilà, les enfants sont différents. Il faut avoir des grosses différences. Après, il y a des milieux sociaux qui sont pas présents dans cette crèche, ne serait-ce que parce qu'il y a des milieux sociaux où on met pas les enfants en crèche.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. Évidemment, là, on parle d'un mode de garde qui est loin d'être majoritaire, qui est plus urbain.
Exactement.
Parisien d'ailleurs par définition, puisque le taux d'enfants placés en crèche est de 27%. En France, c'est seulement 15% des enfants gardés en crèche. Mais justement, peut-être que votre étude peut ouvrir les yeux sur une démocratisation, sur une généralisation aussi de ce mode de garde. C'est un âge où les petits marchent, 2 ans, 3 ans, et commencent à observer le monde. C'est ce qui vous a intéressé aussi dans cette tranche d'âge que vous avez choisie ?
Oui, et ce qui m'a intéressé, donc ils commencent à marcher, ils commencent au fond à être autonomes, à pouvoir se diriger eux-mêmes vers certaines choses dont ils ont envie de bénéficier, mais aussi très important, ils parlent, ils commencent à parler. Alors c'est un moment justement, je l'ai saisi de 2 ans à 3 ans et demi, donc ils ont au départ quelques mots, ils commencent à avoir quelques formules, et ce qui est intéressant, c'est que comme moi je voulais voir comment justement ils commencent à se débrouiller tout seuls, par exemple pour demander des choses qu'ils souhaitent, alors que jusqu'à un certain moment, ils sont dépendants de ce qu'on leur donne, on leur donne à manger telle chose, ils peuvent même pas... pas forcément facilement en demander plus ou moins, par exemple. Mais en développant entre autres le langage, mais pas seulement le langage, aussi la capacité à faire des gestes, par exemple, un peu rapides, qui permettent des fois de taper sur la main du voisin pour récupérer quelque chose, par exemple. De toute façon, ils développent en fait effectivement des techniques qui les rendent plus autonomes, que ce soit le langage ou les gestes.
Et pourquoi avoir choisi la crèche pour observer cela? Parce qu'il y a aussi les modes de garde à domicile avec plusieurs enfants, des nounous partagés. Vous vous êtes dit qu'il y avait un microcosme, une petite société à la crèche qui était intéressante à exploiter?
Oui, alors il y a des questions qu'il faut quand même dire, c'est des questions pratiques, c'est-à-dire que c'est des lieux d'observation qui sont quand même plus faciles, en fait, une fois qu'on a obtenu toutes les autorisations, qu'aller dans une famille. Bon, par ailleurs, il y a plus d'enfants, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut les comparer, c'est quand même un point important. Et par ailleurs, effectivement, c'est un lieu dans lequel il y a la question des relations aux autres qui est mise énormément en avant.
Puisque,
notamment pour les sections de grands, qui est celle que j'ai observée en particulier, souvent, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle le projet d'établissement des crèches, de dire c'est un lieu où on va, comme disent, on va socialiser les enfants. C'est un terme que les sociologues n'utilisent pas parce qu'ils disent plutôt créer de la sociabilité, ce qui est différent. Mais en fond, les parents comprennent bien de quoi il s'agit. C'est notamment préparer la vie en communauté, en collectivité, qui est notamment importante pour l'école qui va suivre.
Et est-ce qu'on la prépare forcément mieux, cette vie en collectivité, en communauté, à la crèche qu'à la maison, quand il y a d'autres enfants ou quand on a des parents qui sont vraiment dans l'interactivité?
Alors, j'ai pas fait des études spécifiques là-dessus, mais effectivement, ce qui est certain, c'est que de toute façon, le nombre d'enfants qu'on rencontre à la crèche, d'une part, et aussi la diversité, parce qu'il faut quand même pas oublier que dans une famille, on va avoir un frère et une sœur. Parfois, les enfants ont l'impression qu'ils sont vraiment aucun rapport avec eux, et par exemple, quand ils ont des rapports des fois un peu conflictuels, ils disent ma sœur, j'en ai marre. Bon, ils peuvent se sentir éloignés d'eux, mais ils le sont jamais complètement, parce qu'ils ont quand même les mêmes parents, éventuellement la même maison, ils ont quand même beaucoup de proximité. Là, ils rencontrent des enfants qui sont éventuellement très différents d'eux, pas seulement dans leur caractère, si vous voulez, mais aussi, justement, comme je vous dis tout à l'heure, dans leur vie ordinaire. C'est ça qu'il faut aussi insister beaucoup, c'est que c'est des lieux, quand on regarde, non seulement dans la crèche, mais j'ai aussi suivi les enfants au-delà, dans leur famille, on se rend compte aussi d'une chose qu'on voit peut-être moins dans les comptes rendus ordinaires de l'enfant, c'est la diversité, en fait, sociale des enfants. C'est-à-dire que cette idée de la petite enfance, on peut dire bon tous les bébés sont un peu pareils, moyennant un petit retard ou un petit avance pour un certain nombre de compétences. Voilà, il y en a un qui va marcher à un an et deux mois et l'autre qui va marcher un petit peu plus tôt. Mais cette idée-là, elle est à la fois vraie et en même temps, ce qui frappe quand on va dans une crèche qui est juste un tout petit peu diversifiée, c'est la diversité des vies enfantines, en fait.
C'est ça. Mmh. Et votre livre, qui est très intéressant, paru au Seuil la semaine dernière, s'intitule Prendre, car vous étudiez notamment la manière dont un enfant va s'attacher aux choses à cet âge-là. Il connaît la place d'un objet dans sa chambre et dans la bibliothèque à la crèche, par exemple, et il va choisir cet objet-là et le prendre. Et c'est ça qui vous intéresse, c'est cette démarche aussi.
Bah exactement. Alors peut-être la première chose, c'est de dire à partir de quand les enfants commencent à choisir, comme vous dites. C'est-à-dire à se dire, tiens, ça m'intéresse, ça c'est quelque chose qui ne va pas de soi. C'est-à-dire, au fond, ils peuvent se diriger vers les choses parce que, comme je vous dis, pendant longtemps, parce qu'on leur donne. Et puis au bout d'un moment, justement, parce qu'ils développent cette autonomie, ils se disent, tiens, je voudrais ça. Alors il y a deux questions qui m'intéressent principalement là-dessus. C'est effectivement pourquoi ils veulent certaines choses plutôt que d'autres. Donc c'est très concret. Hein. Par exemple, pourquoi il s'avère qu'on veut plutôt aller vers une poupée, pour prendre un exemple, que vers, je sais pas, vers l'établi. Pourquoi on veut aller vers des Legos, vers les livres plutôt que vers d'autres objets. Et puis d'autre part, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais quand bien même on a le désir d'aller vers des choses, comment on s'y prend? C'est-à-dire, en gros, alors est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on va chercher? Est-ce qu'on arrache de la main du copain? Ou est-ce que finalement on se rend compte que quand on arrache, éventuellement, on se fait reprendre de voler par la professionnelle? Donc c'est peut-être pas forcément la bonne idée. Ça, c'est des choses qu'ils ont à apprendre. Donc ils ont à la fois à apprendre finalement leurs désirs qui vont pas de soi.
C'est un peu une pulsion au départ, hein, par exemple.
C'est tout un travail de lire du livre, de dire justement cette idée de pulsion, il faudrait même la discuter parce qu'on pourrait dire c'est naturel d'aller vers les choses. Oui, ça c'est vrai, c'est cette pulsion, mais elle est tellement générale.
Oui.
La question c'est vers quelle chose, voilà, pourquoi aller. Soit on se dit naturellement les enfants, par exemple, implicitement, je disais un peu les petites filles, les petits garçons vont vers les poupées,
soit on se dit
justement c'est à ces moments que ça commence à se jouer et que ce qu'il s'agit d'expliquer en tout cas quand on est sociologue, c'est comment ça s'apprend, ou au moins ça s'apprend en partie. Et c'est ça qui m'a intéressé beaucoup dans une crèche, c'est qu'on voit ça qui se développe.
Et la mixité sociale et culturelle que vous avez étudiée vous a permis de voir des choses très différentes entre catégories sociales. C'est ce dont on va parler dans un instant. Et je vous demanderai d'accueillir aussi avec nous par téléphone l'éducatrice Fanny Covelli, qui était directrice de crèche pendant une dizaine d'années et qui a publié « S'il te plaît, dessine-moi une crèche ». Elle va nous expliquer aussi l'univers pédagogique de cette crèche que vous avez, vous, étudié plus sociologiquement. À tout de suite sur Europe 1. N'hésitez pas. Alors, si vous êtes parents, grands-parents et que vous voulez comprendre ce qui se passe aussi avec vos petits-enfants en crèche ou pas simplement, posez-nous la question. On vous répond, Julie. On est dans l'échange.
Jusqu'à 11h, une plongée dans l'univers de la crèche, à la découverte du monde des petits et pour comprendre comment ils apprennent à vivre ensemble.
Oui, on va s'asseoir sur les petits matelas bien douillets de vos enfants à la crèche avec Wilfried Ligné, sociologue chargé de recherche au CNRS, qui a publié « Prendre, naissance d'une pratique sociale élémentaire ». C'était au Seuil et la semaine dernière. Fanny Covelli est avec nous. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous êtes éducatrice, vous avez été directrice de crèche et vous avez publié, je le disais, « S'il te plaît, dessine-moi une crèche ». Alors, on va partager et échanger les différents regards, à la fois du sociologue et à la fois de la professionnelle de la crèche. Pourquoi dites-vous et pensez-vous qu'on est à un tournant de la profession, justement, sur l'auxiliaire, puéricultrice, sur l'accompagnement des enfants, en particulier en crèche?
Je pense qu'on est effectivement à un tournant important parce que, pour des raisons différentes. D'abord parce que nos missions en crèche, qui nous sont dictées par la loi, mais aussi par l'évolution sociétale, ont changé d'étape en étape depuis la création des crèches avec M. Marbeau en 1844, qui ouvrait la première crèche sur Paris. Et les missions étaient différentes. Elles ont été d'éducation des parents pour faire face à la misère sociale. Et puis après, elles ont été extrêmement sanitaires au moment où les les enfants mouraient, oui. Et où la crèche a été vraiment la puériculture, c'est-à-dire élever les enfants et les faire grandir, les faire pousser comme il faut pour qu'ils vivent. Et puis aujourd'hui, depuis les années 2000, il y a un virage qui se fait petit à petit dans nos missions sur l'éducation des jeunes enfants, pas seulement la crèche, c'est un lieu où il faut prendre soin de l'enfant, veiller à sa sécurité, à son bon développement, mais aussi on est là pour aider à concilier la vie professionnelle et familiale des parents, accueillir tous les enfants, y compris ceux porteurs de handicap ou de maladies chroniques, et veiller en partenariat avec leurs parents, contribuer à leur éducation. Donc je pense qu'on a un ordre de mission déjà qui se modifie et qui a été modifié clairement. Cette notion d'éducation réapparaît clairement dans le décret de 2010 qui donne les missions des crèches. Et on arrive petit à petit, les diplômes aussi le montrent. Il y a eu le CAP, ce nouveau CAP qui a été remanié, qui s'appelle Accompagnant éducatif petite enfance.
Oui.
Donc on voit que ça se spécialise. Donc les missions des crèches évoluent. Et nos pratiques se doivent d'évoluer parce qu'on a on est sur des anciens métiers, des vieux métiers, des anciens contenus de formation.
Tout à fait.
Qui, quand on regarde la réalité de ces petites nénettes et petits bonhommes en crèche, on voit bien que la réalité de nos pratiques est un petit peu en décalage avec ce qu'on connaît aussi depuis 10, 15, 20 ans. Grâce à l'évolution des sciences cognitives.
Oui. Voilà, c'est-à-dire que vous trouvez, par exemple, les enfants plus ouverts, plus évolués, un peu plus précoces dans leur manière d'appréhender le monde aujourd'hui ?
Ben, les chercheurs nous montrent aussi aujourd'hui comment fonctionne leur cerveau,
oui.
Combien ils sont à la fois différents de nous adultes, spécifiquement différents, joliment différents quelque part, et que cette différence, on ne peut pas y passer par-dessus et il faut y passer dedans pour pouvoir adapter notre regard, nos comportements, nos pratiques, nos environnements crèches, en fait.
C'est très intéressant, Fanny. On va avoir le temps de vous garder pour faire ce tour du sujet. J'aime bien ce discours positif, optimiste aussi sur la coéducation avec les parents en crèche. Sauf, Wilfried Ligné, que vous avez constaté des choses, vous, par exemple, dans le rapport aux choses et aux jouets, notamment, qui est vraiment imprégné de l'origine sociale.
Oui, mais c'est
avec des exemples concrets.
Oui, c'est quelque chose qu'il faut dire, en fait, c'est que c'est vrai que les savoirs sur l'enfance sont souvent des savoirs psychologiques et de plus en plus des savoirs en neurosciences qui sont vraiment importants, mais qui ont peut-être tendance à écraser en fait cette diversité que les enfants accueillent, ce qui crée aussi effectivement un autre type de décalage peut-être, c'est-à-dire on a une idée d'un enfant un peu générique qui aurait un type de cerveau particulier, puis on tombe sur des enfants qui ont quand même des vies très très différentes et du coup qui arrivent avec une expérience en fait. Dans l'établissement, dans la crèche, qui peut être très différent. Alors, je prends un exemple concret. Par exemple, vous avez des familles donc plutôt favorisées qui ont, quand on arrive dans la chambre des enfants, par exemple, on voit tout de suite l'air de famille avec la crèche. Alors, surtout, par exemple, sur les couleurs, vous voyez, vous avez un tableau avec le général, vous rentrez dans la chambre, vous dites tiens, c'est marrant, au fond, ça m'évoque la crèche, parce que
c'est
des couleurs pastel,
plein de couleurs,
vous trouvez des jouets qui sont les mêmes, etc. Et puis à côté de ça, alors, donc la crèche dans laquelle j'ai travaillé, c'est une crèche parisienne, même si je l'ai anonymisée, je peux dire ça tout de même.
Oui.
J'avais des familles qui étaient primo arrivants de Guinée. Qui changent de logement tout le temps. Ils étaient à 4 dans un petit studio. La petite fille donc va à la crèche. Elle a le même âge que l'autre enfant de la chambre dont je parlais tout à l'heure. Les jeux sont rangés dans un coin. Ils sont bien obligés, les parents, parce qu'il n'y a pas de place, en fait. Il n'y a du coup pas de jouets, quasiment, en fait, dans la pièce, qui est une pièce beaucoup plus d'adulte, qui n'est pas spécialisée dans l'enfance. Donc, ça veut dire que l'enfant n'a pas à disposition tout le temps des jouets. Bon. Alors moi, le détail qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce que ça crée comme rapport aux choses. Mais sans entrer dans ce détail-là, qui est peut-être pas très intéressant pour nos auditeurs, ce qui est intéressant peut-être plus, c'est vous imaginer effectivement le rapport à la crèche, le rapport aussi au projet peut-être pédagogique, en fait, comme dit votre interlocutrice, relativement nouveau en fait de ces crèches, aux enjeux éducatifs, etc., qui peuvent être très très différents quand on vient de ces deux univers-là. En fait, il y a des enfants qui arrivent dans un univers qui finalement leur est familier, donc ça prolonge vraiment leur vie de famille.
Oui.
Et puis il y a des enfants qui arrivent dans un univers complètement neuf.
C'est ça.
Alors ça peut être bien, ça peut leur apprendre d'autres choses, mais il faut bien dire qu'il y en a un certain nombre qui sont quand même très désarçonnés.
Mais ce que vous dites sur le rapport aux choses est intéressant parce que, en l'occurrence, les plus défavorisés vont avoir un rapport, écrivez-vous, plus impatient aux jouets et aux choses. Ils ont peur de ne plus les avoir, donc ils vont un peu se jeter sur ces jouets-là.
Oui,
parce qu'ils n'en ont pas autant
à la maison. Il y a différentes choses. En fait, si vous voulez, ce qu'il y a derrière de très concret qu'il faut dire, c'est par exemple la capacité des enfants de tenir en place, de pas péter un câble, en fait, concrètement, de pas être violent avec leurs camarades, etc. Et ça, les gens qui travaillent en crèche le savent, c'est dépendant de leur capacité à s'accrocher au monde de la crèche, concrètement à jouer à un jeu qu'on leur a donné, etc., à se concentrer. Donc il y a déjà ce mouvement premier, c'est quand c'est très différent, on ne connaît pas, on ne sait pas comment jouer avec ce jeu en particulier, alors on va peut-être l'apprendre, mais ça prend du temps. Et par rapport à ce que vous disiez sur le rapport aux choses, effectivement, quand on a très peu de jouets à la maison, quand on en a de temps en temps, mais qui disparaissent le soir, ou même qui disparaissent complètement, parce que comme me disaient les parents, on est obligé de donner. On donne à d'autres familles, parce qu'on ne peut pas garder tout, en fait. Quand on n'a pas de chambre propre à soi, bien évidemment, on a un rapport un peu moins confiant avec l'objet qu'on a. On ne se dit pas, tiens, ça, je l'ai, c'est bon. Si je pars au-delà de ma chambre, quand je reviendrai, il sera encore là.
Ouais.
Donc, effectivement, il y a des formes d'impatience qu'on peut voir. À l'inverse, chez les enfants plus favorisés, ils ont une espèce de confiance dans leurs objets qui font que, par exemple, ils vont revenir. Et quand ils voient un petit camarade avec une chose qu'ils ont touchée il y a une heure, ils vont dire... Mais tu me le rends, en fait, parce qu'ils ont une espèce d'idée de la propriété qui est très, très fortement construite aussi.
Déjà ancrée, ouais.
Parce qu'en fait, ils ont des choses à eux. Voilà, c'est très simple, parce que chez eux, ils ont des choses à eux et qu'il y a des enfants qui n'ont pas de choses à eux tant que ça, en fait, chez eux.
Alors, venez témoigner si vous travaillez en crèche, si vos enfants y sont, si vous avez vu vraiment la différence entre des enfants qui ont grandi en crèche, qui ont plutôt trouvé le confort d'une nounou à la maison ou d'être élevés par leurs parents, ce qui est magnifique aussi, évidemment, au quotidien. Fanny Covelli est avec nous, ainsi que Louis-Wilfried Ligné, chercheur au CNRS, qui s'est attaché à décrypter l'univers de la crèche, donc de la petite enfance. N'hésitez pas à témoigner, on vous attend au standard, Julie.
Le 39-21.
Europe 1.
Immersion en crèche, comment les enfants se construisent-ils? C'est le programme jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard.
Et avec le sociologue Wilfried Ligné, chargé de recherche au CNRS, qui a publié « Prendre au seuil » la semaine dernière, avec Fanny Covelli, éducatrice qui fut directrice de crèche pendant une dizaine d'années, auteure de « S'il te plaît, dessine-moi une crèche ». La crèche telle qu'elle se dessine justement depuis les années 2000, c'est-à-dire dans l'éducation, la coéducation des jeunes avec les parents, des crèches qui accueillent tous les enfants, qui évoluent avec la société aujourd'hui. L'idée d'enquêter en crèche et de vous placer comme ça en immersion pendant un an, Wilfried Ligné, avec ses enfants de 2 à 3 ans, a donné lieu à des découvertes, vraiment. Il y a des choses que vous ne pouviez pas imaginer sur les interactions, sur les intelligences enfantines à cet âge-là.
Alors oui, bien sûr, d'autant qu'en plus, il faut le dire très simplement, moi je suis le parent d'un enfant qui était à la crèche avant que je commence cette enquête.
D'accord.
Donc il y a un savoir qu'on a de parents, le savoir que de la porte de la crèche, le savoir des réunions qu'on fait avec les professionnels. Et en même temps, voilà, il y a des choses qu'on découvre. Alors un peu, il y a la chose qui m'a frappé, c'est quand même qu'il y a une dimension, il faut quand même le dire, même si la crèche change beaucoup, il y a une dimension de garde en fait dans la crèche, c'est-à-dire d'art de garder les enfants. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une compétence de jugement, de capacité à occuper les enfants, à faire en sorte que des groupes qui peuvent être assez importants parfois. Dans la section dans laquelle j'étais, c'est quand même 28 enfants.
Oh, c'est énorme.
Oui. Après, qui sont divisés en petits groupes. Il y a plusieurs auxiliaires de puériculture qui travaillent avec ces enfants. Mais vous voyez, c'est, quand on a un jeune enfant, on se dit des fois, disons, c'est pas si facile d'en garder un, deux ou trois. Bon, et ben, elles en ont éventuellement 8 à occuper. Et donc, cette dimension, j'en parle parce que c'est aussi quelque chose qu'il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes, en fait, qui sont aussi des choses qui sont un petit peu effacées quand même, il faut le dire, en fait, parce que. On met l'accent par exemple sur les liens, les petits copains et les petites copines que les enfants se font, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais peut-être la première chose à dire c'est que c'est d'abord ça, c'est quand même un lieu de garde en fait, c'est aussi un lieu d'apprentissage.
Vous faire réagir là-dessus, Fanny Covelli, sur ce que dit Wilfried Ligné sur la garde justement, parce qu'il y a l'éducation bien sûr et on va en parler dans le détail si vous le souhaitez, mais c'est vrai que tout à l'heure vous me disiez la mission c'est de soulager les parents, de bien concilier vie professionnelle, vie familiale, que les parents se sentent heureux de faire garder ainsi leur enfant en collectivité. Et vous mettez tous les moyens pour.
C'est une des missions de la crèche, c'est pas la seule, hein, puisqu'on accueille aussi en crèche des enfants dont les parents ne travaillent pas.
Hein. Oui, c'est vrai.
Et c'est là que la mission d'éducation est intéressante, puisque c'est un lieu, je dirais, aujourd'hui, on ne devrait plus dire un lieu de gardien, c'est un lieu d'accueil, les termes ont changé également dans la loi, c'est un lieu d'accueil de tous les enfants. Voilà.
Mmh. Et pour j'aimerais ça que vous différenciez, Fanny, de halte garderie, justement.
Alors, les haltes garderies font partie des établissements d'accueil de jeunes enfants. C'est un des établissements d'accueil de jeunes enfants. La crèche en est un autre. Enfin, il y a plusieurs dénominations, en fait. Hein. Les établissements d'accueil de jeunes enfants, c'est ce qui regroupe l'ensemble des établissements qui sont crèches multi-accueil, crèches familiales, micro-crèches aujourd'hui, hein, depuis quelques années, haltes garderies, jardins d'enfants. Tout ça, ce sont des établissements d'accueil de jeunes enfants. Et la crèche, donc, c'est un peu le lieu phare de ces établissements d'accueil de jeunes enfants. Effectivement. Si vous voulez, j'aimerais revenir, parce que c'était très intéressant d'entendre M. Ligné, j'aimerais revenir sur deux, trois points quand il disait qu'effectivement, il y a une différence de langage quelque part, hein, entre la crèche et la maison,
oui,
et que ça pouvait être compliqué pour certains enfants. Et moi, j'oserais dire que c'est une magnifique chance pour ces enfants d'avoir effectivement deux environnements très différents. Parce que c'est comme s'ils apprennent deux langages. Ils seront riches de ces deux langages-là après. C'est comme s'ils deviendront bilingues. Et à la crèche, on n'a pas à être comme à la maison. Et à la maison, on n'a pas à être comme à la crèche.
Ça veut dire qu'il faut s'adapter pour eux. Et donc, faire adapter des petits à un environnement social ne pose pas de problème, même s'ils sont petits.
Les enfants s'adaptent très bien, je dirais. Eux, ils n'ont pas de souci avec ça.
C'est
nous qui pensons qu'ils ont un souci avec ça.
Oui.
Et c'est la sécurité dans nos lieux d'accueil, la sécurité affective et l'organisation de l'environnement de cette crèche qui va permettre aux enfants de s'adapter très facilement. C'est cette sécurité qui va les conduire à l'aventure d'aller au-devant des univers de jeu, au-devant des interactions, des rencontres avec d'autres enfants, avec d'autres adultes.
Oui,
et c'est là où on a une responsabilité.
Et vous avez dit, Fanny Covelli, à Manuel de Calma, qui m'a aidé à préparer cette émission, que l'expérience de la crèche doit être celle du petit chercheur. C'est assez joli, je
trouve. Absolument.
Qu'entendez-vous par là?
Et ça me permettra aussi de faire le lien avec ce que Monsieur Ligné disait sur tenir en place, c'est compliqué pour un jeune enfant.
Oui.
Effectivement, si notre regard sur le jeune enfant n'est pas forcément le bon, et si nos organisations pédagogiques dans nos crèches sont pas les bonnes, ces enfants vont pas tenir en place. Pas parce que ils veulent nous embêter, mais parce qu'on n'est pas adapté à eux. Et que dans nos organisations pédagogiques, ce qui est important, c'est qu'on offre aux enfants des possibilités de jouer, des possibilités de se concentrer, y compris sur certains apprentissages, mais dont ils vont être les propres auteurs, vont pouvoir initier.
Par exemple, donnez-nous un atelier ou un apprentissage qui parle.
Alors, par exemple, pour que ça soit peut-être plus clair pour vous, dans la crèche donc où j'ai travaillé, donc on avait commencé à mettre en place cette pédagogie dont je vous ai parlé, qui est un chemin pédagogique qui s'appelle l'itinérance ludique, qui a été donc inventé par une puéricultrice qui s'appelle Laurence Rameau, qui est puéricultrice, qui a été longtemps directrice de crèche, qui aujourd'hui est formatrice petite enfance et auteure de nombreux ouvrages.
Oui.
Et donc, cette pédagogie, elle est mise en place donc dans l'ensemble de la crèche de façon globale, avec des univers ludiques effectivement dédiés. Alors, il va y avoir un univers de plus dédié à la motricité, un autre ou peut-être à tout ce qui est sensoriel, un autre à tout ce qui est découverte.
Ça veut dire, Fanny, que les enfants peuvent aller absolument partout de manière autonome.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette notion d'âge, parce que cette notion-là n'a pas de sens pour un enfant de cet âge-là. Il n'appartient pas encore à un groupe. Il est lui. Hein, il va appartenir à un groupe plus tard, mais pas maintenant.
Mais il faut bien des sections pour faciliter le travail aujourd'hui. C'est peut-être là où vous voyez aussi les limites de la crèche, parce qu'il y a des sections, les enfants en bas âge, ça va des coccinelles dans la crèche où j'ai mon bébé, coccinelles au papillon. Voilà, parce qu'il faut bien aussi encadrer ces enfants plus spécifiquement et avoir moins.
Alors, c'est toute une organisation qui est très pensée, qui est très cadrée. Hein. Souvent, les tout petits se retrouvent dans cet univers qu'on appelle, selon les crèches, le palais des bébés ou l'univers sensoriel, où ils sont. Et tous les univers, de toute manière, sont conditionnés à la présence d'un adulte, hein, qui est comme un phare, qui est présent, qui ne bouge pas, contrairement à ce qu'on voit beaucoup en crèche, où on voit beaucoup les adultes aller et venir, et les enfants se mettre à pleurer parce qu'ils perdent leur sécurité affective.
Fanny Covelli, je vais vous donner la parole dans un instant. On doit juste faire une petite pause. Vous reprenez le fil de votre réflexion avec Wilfried Ligné et Elisabeth au standard au 3921.
Jusqu'à 11h, une plongée dans l'univers de la crèche, là où nos enfants apprennent à vivre en collectivité, à donner, à partager, à déjeuner ensemble, à dormir en dortoir aussi. Wendy Bouchard.
Et le défi des crèches, nous disait Fanny Covelli, qu'on va reprendre dans un instant éducatrice, c'est d'inventer, de privilégier par exemple le décloisonnement, l'itinérance ludique. Mais vous pouvez nous dire ce que vous avez vécu avec vos enfants, notamment dans les crèches, et pas seulement dans les crèches, parce que Wilfried Ligné, notre sociologue qui publie « Prendre au seuil », j'ai dit quoi ?
J'allais dire de sociologue de service.
Non, chercheur au CNRS est allé au-delà des crèches aussi dans les chambres d'enfants que vous avez rencontrées. Nous sommes avec Elisabeth au 3921. Bonjour madame.
Bonjour Wendy.
Merci de venir témoigner, chère Elisabeth. Vous qui étiez, ou qui êtes toujours peut-être d'ailleurs docteur, mais qui en tout cas avait eu des petits-enfants que vous avez placés dans la crèche de l'hôpital justement.
Alors j'ai travaillé dans la fonction publique hospitalière, mais je n'étais pas docteur.
D'accord, très bien.
Donc, j'ai mis mes enfants à la crèche du centre hospitalier dans lequel je travaillais.
Oui.
Et ce qui était, ça facilitait le travail parce que j'étais en horaire décalé socialement. Et donc, la crèche était ouverte de 6h à 22h.
Évidemment, oui.
Donc, les enfants rencontraient les enfants du autre personnel, alors qu'on se côtoie très peu. Et d'autre part, ce qu'il serait encore plus facilitant pour les employés, c'est que les crèches des centres hospitaliers soient ouvertes 24h sur 24,
oui,
justement.
Pour les horaires que d'avant les
fériés. Et les jours fériés et les week-ends, alors que là, la crèche était fermée les week-ends, les jours fériés et la nuit.
Voilà, pour la petite revendication, Elisabeth. Mmh. Maintenant, je vais vous demander votre témoignage, parce que vous avez placé vos enfants nourrissons à la crèche, puisque vous travaillez.
Dès 3 mois, ils ont été à la crèche et ils ont encore des amis qui se sont faits à la crèche.
Ah, ça, c'est formidable.
Et même s'ils ont eu des professions différentes, ils se voient toujours. Et ma fille est chercheuse aussi, sociologue et anthropologue, donc je ne sais pas si ça date de là.
Ah ben voilà.
Mais tout à fait, et elle a mis aussi ses enfants en crèche et c'était un mode de garde qui nous convenait tout à fait parce que le personnel était là que pour garder les enfants. Et pas faire ni la vaisselle, ni mettre la lessive en route ou autre.
Fanny Covelli, vous pouvez échanger avec Elisabeth. Voilà un mode de garde qui lui convenait, comme pour 15% des Français, 27% de Parisiens. Ce n'est pas le mode de garde majoritaire, on le disait. Mais mode de garde, on dit encore ça. Alors, mode d'accueil, très bien.
Mais
je vois bien que dans la crèche où j'ai ma petite, alors, il y a des parents qui sont exténués parce qu'ils ont beaucoup travaillé, etc. Mais j'ai le sentiment qu'ils perçoivent ça un peu comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont chercher leur enfant, ils le récupèrent. Vous voyez, il n'y a pas vraiment d'interaction, ni avec le personnel, ni avec les éducateurs, les puéricultrices. Il n'y a pas l'échange d'une coéducation dont vous parlez, et qui est bonne, qui est saine, mais qui n'existe pas réellement encore.
Oui, peut-être que ce n'est pas encore tout à fait la réalité.
C'est ça.
C'est bien dommage.
Oui. mais voilà, mais vous acquiescez sur ce sujet-là. C'est qu'on est encore plus dans la garde que dans la coéducation, même si on doit évoluer.
Excusez-moi, oui. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous, quand on emmenait nos enfants il y a 40 ans, on les habillait avec les habits de la crèche.
Tout à fait.
Et donc, sur ces langes où on changeait nos enfants, on discutait justement avec les autres parents, et aussi bien les pères que les mères qui étaient là ensemble. Mmh. Et on avait les transmissions où on voyait le personnel, et il y avait des fêtes et on faisait le carnaval, et déjà, c'était la pré-maternelle. Hein, donc, on savait ce qu'ils avaient mangé, on savait comment ils avaient été, sauf qu'on pouvait les mettre à la crèche que lorsqu'on travaillait. Mmh. Et entre autres, quand ils étaient malades, il y avait certains parents qui mettaient un suppositoire à leurs enfants, même s'ils avaient 40, pour que la fièvre baisse.
Alors qu'eux
ne seraient pas allés travailler avec 40.
Elisabeth, je ne sais pas si vous avez des petits-enfants ou pas, peut-être pas encore.
J'ai
en tout cas,
petits-enfants et ma fille les a mis à la crèche.
Voilà, c'est ce que vous me disiez en plus. Si j'écoutais ce que vous disiez, Elisabeth, ça serait plus simple.
Et d'ailleurs,
Fanny Covelli, vous pouvez témoigner qu'il n'y a plus de motif d'exclusion des enfants. Vous parliez tout à l'heure des enfants handicapés. Là, on est dans l'exclusion sociale et heureusement, vous avez lutté contre. Mais la varicelle, d'autres maladies, ne sont plus un motif d'exclusion. On peut mettre les enfants en collectivité. Vous les acceptez?
Non, il y a très 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 peu de maladies pour lesquelles les enfants ne sont pas admis en crèche. C'est vraiment des maladies où il y a des risques importants, en fait. C'est très 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 peu, en fait. Mais c'est encore dans les mentalités, quelque part. Hein, et c'est encore dans les pratiques, parfois, de certaines crèches. Hein.
Encore? Oui.
Oui. Mais la réglementation est claire là-dessus. Il n'y a plus du tout de ségrégation, je dirais, que ce soit médicalement ou même sur la situation des parents professionnels. Aujourd'hui, tout parent a le droit et peut avoir la chance, si tant est qu'il y ait des places disponibles, de mettre son enfant à la crèche.
Complètement. Wilfried Ligné, un petit mot avant une pause, puisqu'on parlait de lieu de socialisation, de sociabilité. Le fait de partager ses repas, comme disait Julie, ses goûters, le temps de la sieste, est-ce que ça facilite cette notion de partage pour l'enfant en devenir, justement?
Alors, oui, je vais quand même dire un point, c'est qu'effectivement... On parle beaucoup là des enfants. J'ai des enfants. On est très. On a un visage qui s'éclaire quand on parle des jeunes enfants parce que c'est l'avenir, parce que c'est quelque chose dans lequel. Parce qu'ils sont trop choux, quoi. En fait, ils sont trop mignons, quoi. C'est comme les petits chats sur Internet. Mais il y a quand même des. Enfin, je veux pas être le sombre de. Bon, par exemple, sur la sociabilité, par exemple.
Oui.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même. J'ai vu beaucoup plus de petits conflits pas graves, mais justement où il faut apprendre à peut-être qu'il y en ait moins,
oui.
Que de situations de coopération. Et c'est vrai qu'en tant que parent. parce que le programme de la crèche est justement créer la sociabilité, parce que nous, on est tellement contents quand on voit son petit bout de chou justement devant la porte, on se dit tiens, il a un petit... on regarde, on reste un peu, puis on voit que, on dit ah, j'ai l'impression qu'il joue un peu. Ben, on a tendance à surévaluer un petit peu, tout le monde a un petit peu tendance à surévaluer. Alors, c'est pas grave en soi, en fait, hein, de faire ça. Sauf qu'à la fin.
Dire, c'est, qu'il y a, c'est quand même plus conflictuel que ce qu'on pense.
Moi, j'ai fait des comptages, etc. Et en fait, la vérité, c'est que, ben, voilà, sur par exemple, une centaine d'heures à peu près, hein, je vais pas rentrer dans le détail de l'enquête, mais d'observation, je me retrouve avec 6-7 fois par enfant où on a le début de ce que j'ai appelé une interaction coopérative. Alors, c'est pas du tout un échec, peut-être que c'est mieux que rien, c'est quelque chose qui est peut-être construit par la crèche, et c'est sûr, puisque c'est un lieu justement où on rencontre des enfants. Il y a des choses qui se créent. Mais je pense que quand même, moi j'ai l'impression qu'on en fait un peu beaucoup en fait autour de la petite enfance par certains aspects. C'est-à-dire que c'est je suis d'accord qu'il n'y a pas que de la garde, il y a de l'éducation, il y a des choses formidables qui sont en train de se créer, etc. Et en même temps, je pense qu'on aurait intérêt à voir aussi des aspects qui ne sont pas si sympas que ça.
Oui.
Mais pourquoi ? Parce que à la fin du compte, ce qui est un point important quand même, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui finissent par se dire c'est marrant parce que cet endroit de la crèche ou cet endroit de la garde, parce que ce n'est pas que la crèche, hein, des fois c'est l'assistante maternelle, ça a l'air d'être un lieu génial, alors que moi, mon gamin, des fois à la maison, ce n'est pas si facile que ça.
Oui, et puis ça peut être aussi un lieu de surexcitation. Je fais réagir Fanny Covelli, éducatrice qui dirigea une crèche pendant 10 ans. Merci Elisabeth de vos propos. On a bien compris voilà, votre volonté que les crèches en centre hospitalier soient ouvertes 24 heures sur 24. À tout de suite sur Europe 1.
Nous parlons ce matin des crèches, ce monde de l'enfance où se joue tant de choses pour les petits dans leur rapport aux objets et leur rapport aux autres. Wendy Bouchard.
Un monde dont Wilfried Ligné, sociologue chargé de recherche au CNRS, a aperçu et percé quelques secrets dont il nous disait à l'instant que ce n'était pas forcément un monde idyllique. Ben non, parce que la vie non plus n'est pas un long fleuve tranquille. Fanny Covelli, vous êtes éducatrice, vous avez travaillé comme directrice de crèche pendant 10 ans. C'est vrai que, évidemment, les enfants font l'apprentissage de la frustration et du conflit. Entre eux, là, à partir d'un an et demi, deux ans, ils commencent à chamailler, à se chicoter, à se tirer les cheveux. C'est ça la réalité aussi de la crèche.
Et oui, tout à fait. Vous le décrivez très, très bien. C'est un lieu de vie, bouillonnant de vie, avec, selon les crèches, 20, 10, 20, 30, 50, 60, 70, même plus, petits êtres qui s'animent et ça crée toutes sortes de scénarios dont on peut imaginer. Alors, c'est vrai que, oui, comme disait Monsieur Ligné, ben oui, on a l'impression on parle petite enfance, on s'émerveille, c'est beau, c'est bien, ces petits chatons. Moi, quand je faisais des recrutements de personnel de crèche, la première phrase qu'on me dit, c'est « Ah, moi, je veux travailler en crèche parce que j'aime les enfants. » Et souvent, je leur disais « Mais ça ne va pas suffire. » parce qu'à un moment donné, c'est un vrai métier quand même.
Voilà,
hein.
Ouais.
Et voilà, c'est un vrai métier parce qu'il faut faire face à tout ça. Effectivement, il y a de nombreuses interactions. La crèche est un lieu d'interaction par définition entre enfants, entre enfants et adultes, entre adultes, entre professionnels, entre professionnels et partenaires institutionnels, élus. Voilà,
et je vais vous poser, Fanny Covelli, une question, si vous voulez bien, un peu précise, par exemple, sur la punition. Puisque vous parliez du rôle éducatif aussi de la crèche, comment on fait, comment un professionnel de la petite enfance fait quand il y a un conflit, etc. Est-ce qu'on les met le petit au coin? Est-ce qu'on se fâche? Évidemment, il n'y a pas de punition corporelle, mais comment on gère ça?
Alors, on parlait conflit, je vais répondre à votre question. Hein. On parlait conflit, et je pense que justement, alors les conflits, c'est pas gênant en soi, c'est vrai que dans les interactions, il y a des conflits, et c'est dans les interactions qu'on apprend à s'adapter à l'autre, qu'on apprend à se réguler.
Oui.
Les enfants sont très empathiques, hein, par définition, ils coopèrent aussi, et parfois, ils coopèrent pas. Et je pense que là aussi, c'est nos organisations pédagogiques qui vont favoriser ou pas ce genre de choses. Hein. Si on a dans nos univers, on a des objets en suffisamment grand nombre, des objets intéressants, les mêmes objets pour que les enfants puissent ne pas lutter à s'emparer d'un objet, mais prendre un objet similaire pour jouer. C'est-à-dire que l'enfant, il apprend par l'imitation à cet âge-là aussi. C'est-à-dire qu'il va jouer au même jeu que son copain, avec le même support de jeu pour pouvoir l'imiter. Mais une assiette bleue, c'est pas une assiette verte. Donc, dans nos manuels de puériculture, on a des catalogues qui nous déclinent toutes les couleurs d'assiettes. C'est magnifique, sauf que c'est pas intéressant pour les enfants.
Ah,
il vaudrait mieux avoir peut-être des séries d'assiettes bleues, des séries de cartons rouges, voilà, pour pouvoir manipuler le même objet au même moment avec son copain et rentrer en relation.
Très bien. Je vous fais juste une parenthèse, Fanny Covelli, parce que Wilfried Ligné veut réagir à vos propos.
Oui, je veux réagir parce que là, on est vraiment au cœur de mon livre, c'est-à-dire vraiment la question façon de prendre, oui. En fait, voyez exactement qu'est-ce qui fait qu'on va vouloir cette assiette. Alors, c'est des choses que j'ai observées. Enfin, j'ai observé vraiment ce que vous dites. On voit vraiment que c'est l'expérience aussi professionnelle qui parle. Après, justement, je voulais donner deux points. Ce que vous dites sur, par définition, les enfants, en fait, sont naturellement empathiques. Bon, bah, justement, en fait, non, pas tout à fait. Ils ont une tendance, justement, à vouloir à tout prix quelque chose et ils ne font pas forcément attention aux camarades. D'ailleurs, par exemple, sur les assiettes, c'est un très, très bon exemple. Il y a tout un travail donc, qui est organisé, qui est aussi appris dans les manuels, comme vous l'avez très bien dit. On dit, attention, il faut mettre des objets en plusieurs exemplaires. C'est un truc très important que j'ai vu. Et la difficulté, vous voyez à quel point ils sont pas forcément naturellement dans la coopération, c'est que on va se dire moi c'était des couches, mais ça pourrait être des assiettes, des couches identiques, parce que les enfants sont autonomes, ils doivent aller chercher leurs propres couches.
D'accord.
Donc c'est toutes les mêmes couches, vous voyez, une petite pile de couches, c'est très concret. Et bien ça va être, tout le monde veut la deuxième couche. C'est-à-dire c'est une relation d'ordre, si vous voulez. Donc, donc si vous voulez, à ce moment-là, vous avez un conflit qui naît, parce qu'il y en a un qui a décidé de prendre la deuxième couche, ou parfois c'est la première. Bon, voilà, c'est pas... Donc si vous voulez, là, il y a tout un travail, d'ailleurs, qu'il faut leur tirer le chapeau, des professionnels qui doivent gérer ça. Mais juste
pour
dire aussi, parce que c'est un peu le fond, je vais pas développer trop là-dessus, mais le regard sociologique, peut-être par rapport à un regard plus habituel sur l'enfance, quand je disais on veut pas être chagrin, mais quand même, c'est peut-être de revenir un petit peu sur cette idée que vous avez peut-être un peu rapidement, de dire les enfants sont naturellement empathiques, ils sont pas forcément dans la compétition. Bon, bah, en fait, moi, j'ai le sentiment que justement, toute la beauté peut-être de la petite enfance et de l'éducation des petits-enfants, puisque vous dites...
C'est ce caractère divers.
C'est ça l'enjeu aussi. C'est d'apprendre ça. C'est d'apprendre à coopérer et que cette chose-là ne va pas.
Comment on gère la deuxième couche, alors, quand il y en a 20 qui se jettent sur la même?
Mais on improvise.
Oui. On improvise. Mais c'est vrai que ce point sur
On improvise, mais on peut anticiper certaines choses. Alors, c'est sûr que les enfants, moi, je pense qu'ils sont effectivement empathiques, mais ils ne sont pas que ça, bien sûr. Hein. À cet âge-là, c'est moi qui compte, c'est ce que je veux aussi.
Oui.
Hein. Ils sont pas dans les représentations sociales, ils sont pas dans les codes sociaux, ils sont pas dans l'enculturation. On les a enculturés dans notre culture, mais ils n'ont pas appris les codes encore. Hein. Donc forcément, ils sont un petit peu à l'état brut, ces enfants-là. Et on va pas chercher à minimiser cet état brut parce qu'il est très intéressant. L'enfant est empathique, mais il est curieux aussi. Il a soif d'apprendre, donc il a envie de jouer. Hein. Monsieur Houdet, là, qui est également un chercheur, qui a beaucoup travaillé aussi au niveau de la pédagogie scolaire, mais qui a beaucoup travaillé aussi sur le jeune enfant, dit qu'en fait les enfants sont incapables d'inhiber.
Oui.
Donc ils vont
dans
nos crèches, il y a tellement de sollicitations, c'est extrêmement compliqué pour un jeune enfant de se concentrer sur quelque chose parce qu'il va tout vouloir. Il va d'ailleurs
sollicité.
Vous remarquez qu'il vide toutes les caisses de jeu avant de pouvoir, et après il joue plus parce qu'il y a tellement de choses. Voilà,
la profusion. Ouais. Juste après la pause, vous répondiez à ma question sur la punition, hein, vous me promettez.
Oui.
D'accord. Juste après la pause, et Wilfried Ligny reste avec nous également, sociologue chargé de recherche au CNRS qui publie Prendre aux éditions du seuil, la propriété, la notion de possession qu'on apprend dès le plus jeune âge, c'est-à-dire à partir d'un an et demi, deux ans. À tout de suite, Thierry Robin.
Que se passe-t-il en crèche avec des petits qui peuvent y être accueillis dès leur 2 mois? Encore quelques minutes pour en parler avec Wendy Bouchard et son invité.
Wilfried Ligny, qui, avec des exemples très précis, nous trace un petit peu ce qui se passe dans la crèche. On parlait des jouets tout à l'heure et vous évoquez par exemple la distribution des repas. Et vous écrivez « J'ai eu l'occasion d'observer une impatience distinctive des enfants de classe populaire dans leur rapport aux objets par rapport aux enfants d'origine plus favorisée. » Et vous nous expliquez les exemples de Fatoumata, de Maxwell, de Maurice. Je retrouve la page, c'est assez intéressant. Le repas qui commence par une distribution égalitaire du pain. Quand ils attendent leur tour, durant la distribution, certains enfants ne peuvent s'empêcher de râler. Fatoumata, elle a les yeux grands ouverts, elle montre du doigt le pain, le fromage qu'on est en train de servir aux autres. Elle a peur qu'on ne lui en distribue pas. Voilà, alors ça c'est typiquement aussi ancré sur... l'origine sociale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément, peut-être elle ne mange pas forcément à sa faim, donc elle a peur de ne pas en avoir. Alors que les enfants d'origine plus favorisée attendent leur tour, ils savent qu'ils vont avoir quelque chose dans l'assiette.
Oui, alors il ne faut pas non plus aller trop loin, il ne faut pas donner une vision trop misérabiliste, c'est un rapport générique.
Vous l'écrivez ça.
Aux choses, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, elle mange à sa faim.
Oui, j'ai compris.
Oui. Mais par exemple, effectivement, le fait de dire l'assurance que les choses qui sont prévues pour nous, on les aura effectivement, c'est un truc très très général, mais c'est aussi mon livre est censé être sur ces choses un peu élémentaires, c'est pour ça qu'il y a ça dans le sous-titre. Elle va pas de soi en fait. Il y a des enfants qui sachent qu'il y a des choses qui sont réservées pour eux. Parce que dans leur famille, c'est ça qu'ils ont.
C'est
ont leur propre chambre. Ils ont leurs propres vêtements. C'est des nouveaux pour eux.
C'est pas les vêtements des grands frères.
C'est pas les choses qu'ils ont récupérées, qui ont été données. Et ils savent que les choses vont rester. Même par exemple, quand c'est leurs jouets ou leurs vêtements, ils les utiliseront plus. Ils seront dans un coin, au grenier. Voilà, c'est des choses en fait qui font qu'on a, on a une espèce de rapport aux choses qui sont à soi, qui sont complètement différentes. Donc dans l'histoire du pain donc, que vous dites là, c'est le fait de dire, je dis, ce qui n'est pris n'est plus, est plus à prendre. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des groupes sociaux pour lesquels ben, il vaut mieux prendre tout de suite parce qu'au moins, en fait, on sait que ça sera pour soi. Il n'y a pas de garantie sur une propriété des enfants.
Mais c'est intéressant, de, ce petit microcosme de la société. Fanny Covelli, que vous connaissez bien, vous avez dirigé une crèche pendant 10 ans et vous êtes éducatrice aujourd'hui. Alors, puisqu'on parlait de la coéducation, est-ce que vous pouvez revenir sur cette question de la punition. Est-ce que les auxiliaires des puéricultrices sont là pour punir aussi ?
Wendy Bouchard, vous parlez de la punition. C'est important pour elle. Elle veut avoir des conseils
sur par rapport à sa petite fille.
Par rapport à sa petite fille, elle veut savoir comment la punir sans se sentir mal.
Non, pas du tout. Simplement, comment vous faites pour gérer les conflits ? Non, parce que je n'ai pas à la punir. Alors, je touche du bois, elle est top. Donc, voilà.
On va l'aider ou pas l'aider, je sais pas, parce que moi j'ai envie de dire à cet âge-là, les enfants comprennent pas la punition.
Oui.
Donc il faut qu'on arrive à faire autrement que ça. Voilà. Normalement on devrait pas avoir à y aller comme ça en
Donc,
fait.
Quand ils se tirent les cheveux,
la punition,
quand ils
ça
ne
veut rien
cheveux.
Dire. Ben, quand ils se tirent les cheveux, bon, je voudrais dire c'est pas très grave. La punition ou l'interdit, c'est pas bien, c'est source de découverte en tout cas.
Oui.
Mais c'est pas forcément très grave. C'est toute une polémique ça en crèche, hein, la morsure en crèche, ben voilà, ça c'est des choses très très compliquées pour les professionnels, pour les parents, moins pour les enfants en général.
Il y a Wilfried qui a le témoignage, je vais vous dire. allez-y.
Parce que bon, bien sûr, là on a mis un petit désaccord quand même, parce que je pense, moi j'ai un petit peu la position, on va dire Wendy Bouchard, je fais exprès d'être un peu faillot à cette émission, c'est qui vous dit, on est quand même bien obligé, mais si vous voulez, c'est effectivement, je vais prendre l'exemple de la morsure parce que c'est un exemple classique et que ça va vous parler, ça va parler à tous les auditeurs. Moi, dans la crèche, il y avait un petit dépliant à l'entrée de la crèche sur la morsure, justement. Mmh. Et c'était un petit peu dans l'esprit de ce que vous dites, hein, mais c'est parce que vous êtes une professionnelle et que vous êtes aussi pris dans ce monde-là.
Et après, vous
l'avez fait répondre. La morsure, c'est un mode de découverte. Ils veulent faire des bisous, puis ils se trompent. Oui. Bon, moi, j'ai vu des enfants qui meurent parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils n'ont pas réussi à récupérer la fameuse couche de la deuxième. Donc, et là, je vais dire mon truc sociologique quand même, parce que c'est important. L'idée du sociologue, c'est quand même que justement, c'est l'idée Wendy Bouchard, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'ils apprennent au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'effectivement, spontanément, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas forcément empathiques, ils ne sont pas forcément gentils. Donc des fois, oui, effectivement, ils mordent pour mordre.
Oui.
Ou je peux prendre un autre exemple,
attendez,
par exemple.
On laisse juste Fanny répondre, parce que le temps passe.
Pour dire quelque chose, forcément.
D'accord.
Hein. Non, ils mordent parce qu'ils ont quelque chose à dire et qu'ils n'ont pas peut-être le langage encore, ou qu'ils l'ont, mais qu'ils ne l'utilisent pas, en tout cas, à bon escient pour le moment. Mmh. Effectivement, ça va aller sur des situations comme ça. Quand je dis que ce n'est pas très grave, c'est qu'il n'y a pas de danger imminent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... voilà, on punit ou il y a des interdits forts pour des choses dans lesquelles les enfants pourraient se mettre en danger ou mettre en danger la vie de leurs petits copains ou voilà. Oui. Mais après les interactions, c'est ça, c'est voilà, je te tire les cheveux, tu pleures, est-ce que voilà.
Ça veut dire que vous laissez faire pour principe d'apprendre.
Il y a des choses sur lesquelles
non,
je pense l'adulte est très présent, peut signifier des choses. Il ne s'agit pas de rien dire non plus quand si on voit un enfant qui mord, dire ça fait ben, voilà là c'est pas bien que tu mordes ou c'est pas une bonne chose. Bon, mais on n'a pas vu pourquoi il a mordu non plus. Souvent, dans un groupe de crèche, on est interpellé que quand la sirène retentit, c'est-à-dire
que le bébé
voilà, et on se dit ah celui-là il a encore mordu, mais c'est pas possible. Hein. Oui. On peut même aller dire mais qu'est-ce qu'il vit chez lui en fait. Hein. Et en fait, on n'a pas vu l'interaction. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant dans ces univers ludiques où l'adulte est là, où il est que là, il bouge pas, il est à ce qu'il fait, il accompagne les enfants du regard, de ses paroles, il peut mettre des limites, il peut verbaliser des choses, il peut mettre un interdit s'il le faut, mais il est surtout là pour accueillir, pour regarder ce qui se passe, pour observer et pour réguler bien sûr. Mais on va s'apercevoir souvent que c'est au cours d'une interaction que ça arrive.
Oui.
Et c'est aussi une interaction qui va lui apprendre des choses. Alors il y a des choses qu'on peut laisser faire, et quand je dis empathique ou quand je dis coopérante, c'est parce qu'en observant effectivement ce qui se passe, mais en étant vraiment dans l'observation, hein, pas en pointillé ou on voit vraiment que il y a des histoires qui se créent effectivement entre les enfants. Il peut y avoir de belles coopérations, il peut y avoir de beaux échanges, il peut y avoir des revirements de situation. Et les enfants apprennent. Hein. Ils ont pas forcément toujours besoin de l'adulte.
Non, notamment dans les dortoirs quand ils se tiennent la main pour dormir ensemble, pour avoir une petite présence affective. Ça c'est trop mignon pour l'avoir vu aussi. Une énergie sociale en tout cas qui émane de la crèche, ça c'est sûr et c'est passionnant. Je vous remercie. Le tour de la question se termine maintenant. Je remercie Monsieur Wilfried Ligné qui était
merci
avec nous en
beaucoup.
Studio.
Merci.
C'était très intéressant, Wilfried. Prendre aux éditions du Seuil, naissance d'une pratique sociale élémentaire. Et Fanny Covelli si vous voulez en savoir plus sur la manière dont les crèches évoluent aujourd'hui et ressemblent plus justement à des lieux d'éducation que des lieux de garde simples. Elle a publié « S'il te plaît, dessine-moi une crèche » aux éditions Philippe Duval il y a quelques années. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup.
À bientôt. À bientôt et merci de cet éclairage. À très bientôt.